Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, au sein de l'Académie des sciences morales et politiques, on rencontre un cancérologue de renom. Il siège dans la section philosophie et ça n'est pas un hasard, car ce médecin en digne fils d'Hippocrate a longuement réfléchi sur les aspects éthiques de la médecine et lorsqu'il fait entendre sa voix sur la vie, sur la mort, c'est une voix profonde, puissante, reconnue dans le monde entier. Aujourd'hui, le professeur Lucien Israël vient partager avec nous nos interrogations sur l'un des sujets les plus délicats de notre société, l'euthanasie. Professeur Israël, bonjour.
Bonjour, chère madame.
Et merci de participer à cette émission au fil des pages. Votre livre « Les dangers de l'euthanasie » est sorti récemment, publié aux éditions des Sirtes à Paris. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous retracer brièvement votre parcours comme cancérologue ?
Oh, écoutez, je serai très bref. J'ai soigné ces maladies graves pendant une quarantaine d'années. Et mon attention a été attirée sur l'euthanasie, non pas par ma pratique, parce que mes patients ne nous ont jamais demandé de les euthanasier. Ils ont avec nous lutté jusqu'au bout, même lorsque c'était délicat. Mais mon attention a été attirée par le fait que j'ai pris connaissance de demandes d'euthanasie faites par des bien portants.
Voilà, c'est d'ailleurs un des arguments de votre livre contre l'euthanasie, c'est de dire c'est une demande de bien portant, jamais une demande de malade.
Alors, on peut naturellement, et cela a été fait dans un certain nombre d'endroits, suggérer à des patients que le seul recours est l'euthanasie. Et à ce moment-là, on induit cette demande. Mais même lorsque cette demande a été induite, une étude américaine avait montré il y a déjà quelques années que lorsqu'on soumettait ces patients à des traitements de l'angoisse, à une psychothérapie, et naturellement lorsqu'on soulageait leur douleur, ils revenaient sur cette demande. Tandis que les familles peuvent parfois demander l'euthanasie pour les patients qu'ils ne peuvent plus tolérer de regarder, parce qu'entre autres choses, ça les renvoie à leur propre mort, et puis aussi les bien portants pour des raisons idéologiques.
Oui, donc là, vous portez tout de même un regard différent. Vous affirmez que l'euthanasie, justement, les discours qui sont tenus par les adeptes de l'euthanasie, notamment le discours qui dit « il faut alléger les souffrances », c'est un faux discours.
Oui, c'est un faux discours parce que, d'une part, il est possible, mais depuis déjà longtemps, d'alléger complètement les souffrances en maniant à la fois des substances antalgiques, mais aussi des anesthésiques locaux, car les douleurs sont localisées et il est dommage qu'on n'ait pas recours à ces méthodes. D'autre part, il est également admis que si on est obligé pour vaincre une souffrance de donner des doses d'antalgiques dangereuses, ça ne s'appelle pas une euthanasie. Voilà. Ça ne consiste pas à tuer délibérément un malade, mais simplement à prendre un risque pour l'empêcher de souffrir. C'est ce qu'on peut appeler une euthanasie passive, mais ça n'a rien à voir avec une euthanasie active.
Oui, il faut donc bien s'entendre sur le mot euthanasie qui est une euthanasie active.
Absolument.
Il y a un mot que vous avez l'air de détester et qui vous met hors de vous, c'est le mot dignité. Mourir dans la dignité ou l'indignité.
Oui, ça n'est pas la dignité que je déteste, c'est le recours à ce mot comme prétexte à l'euthanasie. Ce sont des bien portants qui décident de la dignité d'autrui et de le tuer si, à leurs yeux, à eux, cette dignité est compromise. Or, encore une fois, mon expérience m'a montré, d'une part, que les patients qui ont fait l'objet à la fois de des thérapeutiques les plus audacieuses à leur service, mais aussi de la compréhension et de la compassion de l'équipe, ne demandent pas l'euthanasie.
Alors vous parlez de thérapeutiques audacieuses et je crois avoir compris que vous-même, vous avez été un pionnier audacieux en essayant des trithérapies au moment où ça n'existait pas. Au jour d'aujourd'hui, il y a encore des possibilités d'attendre des découvertes tout à
Alors,
fait importantes.
J'ai deux choses à dire en réponse à cette question. D'une part, compte tenu du fait que le savoir médical double tous les 4 ans, alors que mes maîtres enseignaient ce qu'ils avaient appris, on sait que notamment par l'intermédiaire de la pharmacogénomique, il va y avoir des médicaments assez vite qui vont transformer la situation. Mais d'autre part, il existe déjà des médications qui ne sont encore que rarement utilisées. On m'a demandé il y a quelques mois de présider à Paris un congrès de cancérologie et mon intervention s'appelait « Les savoirs inemployés en cancérologie ». Il y a des savoirs inemployés, je ne vais pas les énumérer ici parce que c'est de la biologie, mais qui ne sont pas encore entrés dans la pratique et on se demande pourquoi.
Et la biologie, c'est pas de la médecine, donc il faut rapprocher deux disciplines différentes ?
Absolument, parce que aujourd'hui, il y a une connaissance de plus en plus fine et efficace de la biologie des cancers. Mmh. C'est vraiment à l'ordre du jour dans toutes les équipes de pointe dans le monde entier. Et par conséquent, on sait ce qu'il faut faire, ce qu'on peut faire pour bloquer l'évolution d'une tumeur, et tout n'est pas employé. Encore une fois, j'entrerai pas ici dans les détails, mais malheureusement, c'est vrai. Il y a des choses qui ont été publiées, mais qui n'ayant pas encore été validées par des protocoles d'études qui demandent des années, ne sont pas encore entrées dans la pratique.
Un excès de prudence, d'une certaine façon, mais aussi un espoir.
Il y a les deux. Non, mais c'est plus qu'un espoir, puisqu'il y a des publications sur des cas isolés, mais aussi sur des animaux qui montrent qu'il y a des procédés efficaces, mais selon les lois édictées par les biostatisticiens, il faudra des années pour que des protocoles internationaux valident ces produits en prenant quelques centaines de patients qui n'auront pas le produit en question et quelques centaines d'autres qui l'auront, et en attendant ou bien la mort ou la guérison pour juger qu'on a été au bout, et puis publier après les résultats. Et pendant toute cette période, on prive des patients de produits qui, un, existent, deux, ne sont pas nocifs et pourraient améliorer leurs chances de guérison.
Donc, professeur Lucien Israël, Les dangers de l'euthanasie, publié aux éditions des CIRT. Dans ce livre, il y a énormément de phrases que j'aimerais pouvoir relever parce qu'elles témoignent de votre grand sens de l'humain. Il y en a une que je relève parmi d'autres, c'est celle-ci. Il y a toujours, non pas un espoir de guérir, mais un espoir à donner aux malades. Vous pensez que c'est la fonction médicale, donner un espoir, même quand il n'y a plus beaucoup d'espoir ?
C'est ce que j'ai appris au contact de mes patients pendant des décennies, et ils en ont toujours été reconnaissants. Et par exemple, n'est-ce pas, faire régresser une tumeur, évidemment, c'est important, mais ralentir l'évolution d'une tumeur, tout simplement, ça peut permettre d'attendre le développement d'une nouvelle thérapeutique. Ça peut permettre de reprendre des thérapeutiques qui ont été données quelques années auparavant et qui ont été abandonnées sans raison, etc. Et par conséquent, d'une part, il faut se battre et essayer de gagner du temps, c'est important. Mais d'autre part, les patients qui prennent conscience qu'on se bat ainsi pour eux nous en remercient et acceptent. Je n'ai jamais enregistré de refus.
C'est intéressant de le savoir. Donc, dans cet ouvrage, Les dangers de l'euthanasie, vous dénoncez alors l'euthanasie non pas sur un plan simplement de la morale, mais surtout sur un plan sociologique. Pour vous, c'est un fléau sociologique. C'est votre expression.
Oui, parce que si les jeunes apprennent qu'on peut se débarrasser de leurs parents ou de leurs grands-parents quand ils sont malades, je pense qu'il y a vraiment un risque de rupture du lien symbolique entre générations qui fait toute la solidité d'une société, toute sa solidité culturelle, mais aussi au sein des familles. Et donc, on ne peut pas faire une loi acceptant l'euthanasie. Ça, c'est un premier point. En deuxième lieu, la médecine, c'est le contraire, n'est-ce pas ? Et par rapport, y compris à Hippocrate et au serment auquel il a donné son nom, les médecins ne peuvent pas risquer d'apparaître comme ceux qui pourraient tuer leurs semblables, alors qu'il y a toujours quelque chose d'autre à faire. Et si j'ai une minute, je voudrais dire qu'on sait maintenant de quelle façon on va opérer dans très très peu d'années pour sauver des gens comme ce jeune qui a été euthanasié récemment.
Dont on a beaucoup parlé.
Parce qu'il se trouve qu'on a découvert dans la moelle osseuse de chaque être humain des cellules souches susceptibles de se transformer en neurones et donc qui seront évidemment bien supportées par l'organisme parce qu'il n'y aura pas de rejet immunitaire et qui fabriquent des neurones là où il n'y en a plus.
Donc des pièces réparatrices.
Exactement.
Des cellules réparatrices.
Et on n'aura pas besoin de passer par le clonage thérapeutique, etc. La nature nous a pourvus de cellules souches que nous pouvons utiliser pour nous-mêmes et on va le faire très vite.
C'est une découverte fabuleuse. C'est aussi une découverte qui va répondre à toutes les questions que vous pouvez se poser sur l'embryon fabriqué pour
exactement,
donner des cellules. Parce
exactement.
Que vous parlez aussi mais dans ce livre de cela.
Ce qui est étonnant, c'est que ces découvertes qui ont été publiées dans des revues américaines prestigieuses il y a 3-4 mois, personne n'en parle. Ça n'a pas intéressé les commentateurs
jusqu'à présent. Peut-être y a-t-il un discours qu'on pourrait appeler politiquement correct.
C'est ça, c'est ce que je crois.
Que vous dénoncez. Oui. Vous êtes optimiste sur le fait qu'on entende votre voix, qu'on l'écoute, enfin en tout cas contre une loi pour l'euthanasie.
Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Vous l'espérez,
je l'espère, bien entendu, mais il faudrait interviewer chacun des membres de l'Assemblée nationale et discuter avec lui et lui donner les raisons. Jusqu'à présent, personne d'entre eux ne m'a invité. Mais bon.
Donc, on va les encourager, en tout cas, à lire votre livre, Les dangers de l'euthanasie, publié aux éditions des CIRT. J'aurais aimé encore que vous me disiez un tout petit mot sur ce risque sociologique. J'ai même noté que vous considérez l'euthanasie comme une porte ouverte sur le bon débarras, j'allais dire.
Absolument. La longévité augmente, n'est-ce pas, régulièrement, d'un trimestre par an, la longévité moyenne. Mais le nombre des dépendances augmente également. Aujourd'hui, à 85 ans, un homme sur trois et une femme sur quatre sont dépendants. Dépendants, ça signifie qu'actuellement, on n'entrevoit pas le moyen de les sortir de leur dépendance et qu'il faut les accepter tels qu'ils sont et pour aussi longtemps qu'ils sont en vie. Et le jour où on aura légalisé l'euthanasie, il y aura des tentations. Et ainsi que ça s'est passé déjà souvent aux Pays-Bas, par exemple. Et il y a là un gros danger.
Oui, vous dénoncez ce danger. Professeur Israël, merci d'avoir partagé avec nous vos réflexions qui nous ont fait avancer dans notre propre réflexion sur ce sujet difficile. Je rappelle que votre ouvrage « Les dangers de l'euthanasie » est publié aux éditions des CIRT à Paris. Vous êtes également l'auteur d'un ouvrage important qui s'intitule « Cerveau droit, cerveau gauche ».
Et dont le sous-titre est « Cultures et civilisations ».
Voilà, et j'espère que sur Radio-Canal Académie, j'aurai prochainement l'occasion de parler avec vous de cet ouvrage.
Très volontiers, je vous remercie de votre invitation.
C'est moi qui vous remercie.